Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Le marché des ventes des biens de seconde main se porte bien à Kinshasa et même dans d'autres provinces à travers le pays. Appareils électroménagers, meubles, habits et autres biens se vendent dans ces marchés ou par des vendeurs ambulants à des prix défiant toute concurrence. Mais d'aucuns estiment qu'il s'agit pour la plupart des produits des biens volés. Alors, qu'est dit la loi lorsqu'on achète un article volé, un bien qui a été subtilisé quelque part? Qu'est dit la loi à ce sujet? Nous recevons aujourd'hui pour en savoir plus Maître Guilla Maléré et les juristes. Alors, Maître, la première chose, la première question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle RECEL.
Oui, je dis, pour la définition, il faut se référer tout simplement au code pénal livre 2, à son article 101, qui définit de manière résumée le RECEL comme étant le fait de détenir ou d'acquérir des biens qui eux-mêmes ont été obtenus par leurs détenteurs d'une manière frauduleuse en commettant une infraction. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a commis une infraction pour obtenir un bien et que vous héritez de ce bien, vous l'acquériez à votre tour, eh bien vous êtes un receleur. C'est-à-dire vous détenez un bien qui a été obtenu lui-même par des manières qui violent la loi. Mmh. Et par cela, en quelque sorte, vous prolongez l'infraction qui a été commise par la première personne qui avait subtilisé ce bien.
Mais vous allez acheter ce bien de bonne foi sans savoir que ce bien a été volé quelque part, maître.
Oui, je dis, tout le problème est au niveau de cette bonne foi que les juristes appellent l'élément intentionnel de l'infraction. Oui. Effectivement, la Cour suprême de justice a déjà tranché en disant que pour qu'il y ait infraction de RECEL, il faut que la personne qui détient le bien ait eu connaissance de l'origine délictueuse du bien. Or, qu'est-ce qui se constate ici à Kinshasa, en particulier à RDC en général, c'est que les gens acquièrent des biens, n'est-ce pas, volés, et les rachètent et prétendent qu'ils n'étaient pas au courant du fait que ces biens-là étaient volés. Mmh. Alors qu'en réalité, il suffit de regarder le vendeur. C'est souvent des personnes sans aucune qualification. Oui. Ce n'est pas un petit commerçant, ce n'est pas un commerçant.
Un petit chèque,
bon,
peut-être.
C'est un balayeur ou je ne sais pas moi, il exerce une profession, en tout cas qui n'est pas une profession de commerce, et il vous vend quelque chose. Déjà, ceci peut vous amener à soupçonner que c'est un bien qui a été acquis de manière un peu suspecte. Hein. C'est ainsi que l'on voit des gens qui vous abordent au cours de la route. Oui. La manière dont ils vous présentent, par exemple, une chaînette en or qu'il sort de sa poche, vous la montre en la cachant et vous demande de la racheter. Tout de suite, vous sentez que cette personne là-bas est consciente qu'elle n'est pas dans son bon droit. Et quand vous acquérez un bien comme ça, mettez en risque d'être poursuivi pour l'infraction des RECEL.
Mais s'il s'agit par exemple d'un marché reconnu où les vendeurs sont bien installés, mais ils vendent les objets de seconde main qui parfois proviennent du vol.
Alors là, c'est très différent et c'est plus compliqué, je dis effectivement, parce que lorsque c'est sur un étal, les vendeurs hein, qui vendent au marché sur des tables, qui payent des taxes auprès des autorités de la ville ou des autorités municipales, oui. Et lorsque vous vous présentez devant une table, vous êtes supposé être de bonne foi, vous êtes devant un petit commerçant, un détaillant, et vous êtes en droit de supposer que les biens qu'il est en train de vendre proviennent d'un achat régulier que lui-même a effectué auprès d'un grossiste. Oui. Parce que comme vous savez, pour le moment dans notre pays, maintenant on a distingué les commerçants habilités à faire la vente de gros et ceux qui peuvent faire la vente de détails. Donc là, vous êtes de bonne foi, vous vous présentez devant une table, quelqu'un vend des babouches, eh bien vous êtes c'est dans votre droit de penser que lui-même est allé les acquérir auprès d'un grossiste de manière régulière. Mmh. Là, la mauvaise foi est très difficile à établir dans ce cas-là.
Voilà, là, la mauvaise foi est très difficile à établir.
Mais vous permettez les choses en aller autrement lorsqu'il y avait encore le marché Coët. Oui. Mais maintenant, les autorités de la ville, évidemment, je pense, à bon droit, ont dispersé ce marché-là. Mais dans le marché Coët, il y avait des personnes qui voulaient revendre leurs biens. Mais il y avait aussi des biens volés, n'est-ce pas, qui étaient revendus dans cet espace-là. Et là, il y avait énormément de risques de tomber dans l'infraction des RECEL.
Oui, maître, mais d'après nos sources, on reçoit des informations selon lesquelles ces genres de marchés existent toujours.
Vous savez, j'ai parlé du marché Koweït le plus connu qui est vers Bongolo. Mmh. Bon, mais effectivement, il y a beaucoup de petits marchés pirates. Et dans ces marchés pirates, là-bas, qui ne sont pas reconnus officiellement par l'autorité, oui, il faut faire très attention d'aller acquérir des biens dans ces genres de marchés, parce que souvent, ce sont des biens qui ont été obtenus de manière délictueuse. Hein. Ça peut être des biens volés, mais ça peut aussi être des biens extorqués. Hein. Il n'y a pas que le vol. Hein. Il y a des biens, des chaînettes que l'on arrache à nos sœurs, à nos mamans, qui sont revendues dans de tels marchés pirates. Effectivement, il y a beaucoup de risques dans de tels marchés de tomber dans l'infraction de recel.
Alors, comment porter plainte pour ce genre de cas?
Ok, très bien. Quand vous lisez l'article 101 du Code pénal livré 2, il est dit que c'est une infraction qui est punissable d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 5 ans au maximum. Alors, pour les infractions qui vont de 0 à 5 ans, les tribunaux compétents, c'est les tribunaux de paix. Si vous voulez saisir directement les juges pour faire condamner le receleur, mais il est plus conseillé, c'est plus facile d'aller devant le parquet ou devant un poste de police le plus proche hein, pour recourir la justice de proximité. Et le parquet ou la police, les OPJ, prendront en charge le dossier jusqu'à l'amener devant le juge du tribunal de paix.
Alors, à ce moment-là, vous allez vous plaindre contre qui? Le vendeur? Peut-être vous êtes passé par ce marché-là, vous trouvez le bien en train d'être vendu. Qui est-ce qu'il faut accuser à ce moment-là? C'est le vendeur ou c'est la personne qui a acheté?
Effectivement, je dis, vous avez raison, la question est bien posée. Dans ce cas-là, il faut accuser la personne qui détient le bien sur le moment. Donc, ça veut dire le vendeur du bien qui l'a exposé en public, qui l'offre, n'est-ce pas, en achat ou en vente au public. Oui. C'est celui-là qu'il faut accuser. Et les enquêteurs vont remonter de celui-là vers celui qui lui a procuré ses biens et qui s'avère être le voleur ou la personne qui l'a extorqué à un citoyen.
Oui. Mais la personne qui a acheté est aussi condamnable s'il est établi qu'elle était au courant que c'était un bien volé.
Absolument, et c'est tout l'enjeu de cette infraction, elle se situe au niveau de l'intention, de la connaissance, de la provenance délictueuse, hein, de la chose. Et donc, dès que vous êtes censé être au courant hein, que le bien que vous êtes en train d'acheter est d'une origine douteuse, eh bien, vous êtes poursuivable pour l'infraction de recel. Donc, il peut y avoir finalement plusieurs receleurs. Hein. Oui. Un receleur qui rachète auprès d'un receleur lui-même, tous sont poursuivables pour recel. Vous voyez.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne, Godefroy Kitoko depuis Kananga et Adji Mahamouti de Kindu. Vous voulez également intervenir, composer le 081-890-6394.
Lorsque le soleil se couche, toutes les infos se retrouvent sur la radio de la paix. Journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger, inforoute et les infos sport toutes les demi-heures. Lorsque le soleil se couche, 17 à 19h, bienvenue dans Capissoir.
Quelles sont les dispositions légales concernant le RSL? Maître Guillaume Allaire, juriste, est notre invité. Godefroy Kitoko, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Radio Cartier.
On vous écoute.
Bonjour, monsieur l'invité.
Bonjour.
Oui, j'ai une petite préoccupation par rapport au sujet du jour.
Oui.
Oui. Existe-t-il une infraction de RSL en matière immobilière? Si, Anna, monsieur l'invité peut nous éclaircir ici, s'il sait. Et puis, la bonne foi de l'acheteur peut-elle supprimer l'infraction du RSL?
Merci, Godefroy. Adji Mahamouti de Kindu, bonjour.
Bonjour. Bonjour à l'invité aussi.
On vous écoute, Adji.
Ouais, je voulais poser au moins trois questions à notre invité. La première est de savoir si il y a la différence entre sel et recel. Et la deuxième question...
Pardon, vous dites la différence entre...
Entre sel et recel.
Entre sel et recel.
Entre sel et recel.
Ok.
Et la deuxième question est de savoir, puisque si j'ai bien suivi notre invité, il a dit quand vous achetez une chose à un chèque directement là, vous savez que c'est une chose appartenant ou émanant
un objet volé.
D'une infraction. Et je voulais savoir, si vous achetez à quelqu'un qui se respecte, par exemple, et que l'auteur ne savait pas que c'est bien là provenant du vol, est-ce qu'il y aura l'infraction des RSL?
Merci, Hadji. Guilherme Aléré.
Merci beaucoup pour les questions intéressantes. Je commence par celle de Kananga, de M. Godefroy.
Oui.
Alors, il veut savoir si on peut, il peut y avoir une infraction des RSL sur un bien immobilier comme une maison. Non, là, c'est clair, la loi parle des choses ou d'objets qui ont été enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'une infraction. Donc, quand vous lisez la jurisprudence, il s'agit d'objets, ça peut même être de l'argent, des deniers publics, hein, à la rigueur, mais ce sont des choses mobilières, donc des choses susceptibles d'être déplacées, vous voyez, d'une personne à une autre. Et dans le cas d'espèce... n'est-ce pas, les biens immobiliers ne répondent pas à cette qualification. Et dans les biens immobiliers, il y a une autre infraction, on parle de stéléonat, hein, vente d'un bien d'autrui, etc., etc. Donc, ça ne concerne pas les biens immobiliers, là c'est clair, c'est uniquement pour les biens mobiliers susceptibles d'être déplacés. Alors,
sa deuxième question est de savoir si la bonne foi de l'acheteur peut supprimer l'infraction.
Oui, si la bonne foi de l'acheteur peut supprimer l'infraction, c'est exactement ce que nous avons dit jeudi en commençant l'émission,
oui,
en disant que la Cour suprême a été très claire en disant que pour qu'il y ait RSL, il faut que celui qui a racheté la chose soit au courant de son origine délictueuse ou ait pu soupçonner cette origine délictueuse. Mais lorsque toutes les apparences de l'offre qui lui a été faite sont telles que elle paraît être régulière, eh bien, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour recel dans la mesure où il ne le sait pas. Mais lorsque la personne peut avoir soupçonné l'origine délictueuse, à ce moment-là, elle peut être poursuivie. J'ai donné un exemple très simple, c'est le fait que l'on vienne vous vendre sur la route là un bijou cher, et vous voyez déjà que la personne qui le vend, c'est apparemment c'est un badaud, un passant qui n'a aucune qualité de commerçant, en tout cas ni de petit commerçant, et vous pouvez tout de suite vous méfier et refuser d'acheter ce genre d'objets, parce que souvent ce sont des bijoux ou des chaînettes qui ont été arrachées à des passantes qui sont aussitôt revendues à d'autres. Là, nous sommes dans des cas où l'acheteur ne peut pas se réfugier derrière la bonne foi. Il y a toujours mauvaise foi présumée dans ce cas-là.
Et il y a Adji de Kindou qui vous a posé la question de savoir quelle est la différence entre le sel et recel.
Oui, notre ami Adji de Kindou, apparemment, c'est un spécialiste du droit déjà. Mais là, c'est très simple. Le sel, c'est lorsque ça s'est traité par l'article 102 du Code pénal livre 2. Eh bien, on est en situation de sel frauduleux, hein, c'est ça l'intitulé de l'infraction. Le sel frauduleux, c'est lorsque vous avez par hasard, hein, vous êtes entré en possession, n'est-ce pas, par hasard d'un bien appartenant à autrui, au lieu de rechercher le propriétaire ou d'aller le déposer auprès d'une institution qui peut se charger d'en rechercher le propriétaire, vous gardez ce bien par devers vous. N'est-ce pas, ou bien vous les confiez, vous en faites aussi cadeau à un tiers comme si il vous appartenait. Hein, le cas le plus patent, c'est lorsqu'on était encore tout petit enfant aujourd'hui, quand on trouvait une pièce de monnaie qui était tombée par terre ou un billet, n'est-ce pas, alors même qu'on a vu qu'il tombe de la poche de quelqu'un, plutôt que de rappeler ce monsieur et de lui remettre ce qui lui appartient, on met le pied dessus, n'est-ce pas, et on reste là jusqu'à ce que la personne ait disparu de ses yeux et on sort le pied, on ramasse le bien qu'on a caché. À ce moment-là, vous êtes en situation de sel frauduleux, c'est-à-dire vous êtes tombé par hasard sur ce bien-là. Au lieu d'en rechercher le propriétaire, vous vous en appropriez comme s'il vous revenait. Ça, c'est le sel frauduleux et il est aussi puni par la loi d'une peine moindre que le recel. Là, la peine va de 8 jours à 2 ans de prison. C'est ça le sel. Oui. Et le recel, c'est ce dont nous parlons ici. Un bien dont vous connaissez qu'il a été acquis par infraction, soit extorsion, soit vol, et vous acceptez de le détenir, de l'acquérir ou vous l'acceptez comme cadeau, je ne sais pas, donc à ce moment-là, vous êtes coupable de recel. Voilà la différence entre les deux infractions.
Voilà, un auditeur nous a écrit, Junior Bega de Boutembo, il dit, j'avais perdu mon téléphone et je l'ai racheté dans une maison spécialisée sans le savoir. Et plus tard, j'ai découvert que c'était mon téléphone perdu. La même couleur, ils avaient changé seulement quelques petits, mais quelques petites choses, mais il a reconnu tout de suite que c'était... juste après que c'était son téléphone. Alors, il dit, dans ces cas maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire?
C'est exactement le cas aussi des chauffeurs de véhicules qui rachètent les bouchons du réservoir ou des enjoliveurs qui s'avèrent avoir été leur propre pièce de leur propre véhicule. Donc, vous rachetez votre propre bien dans une boutique, eh bien, vous pouvez poursuivre ce commerçant, n'est-ce pas, pour recel, parce qu'il doit pouvoir justifier de la manière dont lui-même, n'est-ce pas, a acquis ce bien.
Oui.
Et comment il peut se faire qu'une boutique qui se respecte va s'approvisionner auprès de badauds, hein, de voleurs. C'est un cas typique de recel. La plainte doit être portée contre les tenanciers de la boutique et lui va se justifier par rapport à la provenance du bien. Si le bien s'avère être d'une provenance délictueuse, et dans le cas d'espèce, je pense que c'est le cas, ce n'est pas un hasard qu'il puisse vendre au propriétaire un téléphone volé. À ce moment-là, eh bien, il sera poursuivi pour recel. Donc, la plainte sera portée contre les tenanciers de la boutique. Et si vous permettez, Jody, notre auditeur de Kindu tout à l'heure a demandé si le vendeur, c'est quelqu'un qui se respecte.
Voilà.
Est-ce qu'on peut toujours poursuivre quelqu'un pour recel parce qu'il a acquis le bien auprès d'une personne qui se respecte? Vous voyez un peu ce genre de considération.
Oui.
La personne qui se respecte, c'est une notion assez... assez glissante, assez floue, dans la mesure où la loi parle aussi, où les juristes parlent des criminels en col blanc. Hein, il peut avoir l'air bien habillé, il parle un très bon français, mais ça n'empêche qu'il soit un escroc, par exemple.
Oui.
Et donc, le fait que le vendeur se respecte, ce n'est pas ça qui compte. C'est ce qui compte, c'est le fait que le vendeur ne sait pas justifier lui-même comment il a obtenu ce bien. Il n'est pas commerçant, détaillant. N'est-ce pas? Il n'est pas vendeur de téléphones, il n'est pas bijoutier, mais il vous propose une marchandise, un téléphone, un bijou, etc. Vous êtes en mesure de pouvoir vous poser des questions.
Oui.
En fait, le conseil, c'est, lorsqu'on vous vend quelque chose, cherchez à savoir d'où est-ce que la personne qui vend cette chose-là l'a obtenue et en quelle qualité il vous la vend. Donc, il n'y a pas de vendeur qui se respecte.
Oui.
Par rapport à la loi, il faut soupçonner tout le monde et être prudent.
Voilà. Quelles sont les dispositions légales en ce qui concerne le recel? Jean Dambouche nous appelle de Colouésie. Gaylor Colossi, Gaylor Colossi également, se trouve à Colouésie. Jean, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à tous les éditeurs de la radio Kati. Ma préoccupation est celle-ci, c'est-à-dire quoi? Je voulais savoir, parce qu'il y a un monsieur qui est venu à emprunter de l'argent chez un ami à moi.
Oui.
Alors, comme garantie, il a laissé son téléphone portable. Et par après, ce monsieur est venu avec les agents de la police, soi-disant que ce téléphone a été volé. Alors, je voulais savoir quel sera le sort de ce monsieur qui a emprunté de l'argent. Parce que celui-là ne savait pas que le téléphone a été volé. Il a retenu le téléphone comme garantie de son propre argent qu'il a donné à ces messieurs. C'est ça ma préoccupation, monsieur.
Merci. Gaylor Colossi, on vous est également en Colossi, bonjour. Gaylor Colossi, bonjour.
Oui, bonjour, je suis à l'écoute.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
J'ai dit ceci.
Oui.
Faut-il avoir un document aussi ici de... devant les histoires là, par exemple, de ma maison.
Vous dites... Vous dites, faut-il exiger un document lorsque...
Ma deuxième est de savoir si, par exemple, c'est, bon, je vais acheter quelque chose là, mais je vois que cet homme est un peu potentiel. Est-ce que je peux discerner que cet homme, vraiment, il est voleur, bon, dans ce sens-là?
Merci. La première question, si je comprends bien, Gaylor, pouvez-vous la... Je n'ai pas très très bien saisi ce que vous voulez dire. Gaylor?
Oui, je sais.
Oui, je disais, je n'ai pas très très bien saisi votre première question. Pouvez-vous la répondre rapidement, s'il vous plaît?
Oui, ma première question est de savoir, Première question, faut-il avoir un document pour vendre les histoires-là, par exemple, de la maison? Vous
d'accord.
comprenez?
D'accord, merci. Oui, je comprends.
Voilà. Ouais. Ma deuxième préoccupation est de savoir si j'achète quelque chose.
Comment,
là,
comment détecter un homme sérieux ou pas?
Un homme acquis un peu potentiel. Est-ce que.
Oui.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci.
Que je ne sais pas son identité. Je peux
oui.
donner comment.
Merci. Merci, Guélard. Maître Guélard.
Okay. Oui, on commence par Jean, je crois, de Colosie, qui parle de l'argent, quelqu'un qui emprunte de l'argent et qui laisse un portable en garantie.
Oui.
Et il s'avère plus tard que le portable était un objet volé. Qui sera poursuivi?
Non,
eh bien, celui,
oui.
le prêteur d'argent,
oui.
celui qui a donné de l'argent contre la garantie, n'a commis aucune infraction, n'est-ce pas? C'est normal qu'il ait demandé une garantie. Et il ne voulait pas s'approprier de ce portable. Ce portable, c'était juste pour s'assurer que son argent lui serait restitué. Il n'a donc commis aucune infraction. C'est par contre l'emprunteur qui est venu déposer un bien d'autrui pour garantir la dette, mais qui est soit un voleur, soit... ça dépend de l'infraction qu'il a commise vis-à-vis du propriétaire du téléphone.
Hein. Oui.
Il peut le lui avoir escroqué, il peut le lui avoir volé ou extorqué. Donc, la personne qui a donné l'argent en prêt n'a commis aucune infraction. Elle était totalement de bonne foi. Et surtout qu'elle n'avait pas l'intention de s'approprier de ses téléphones, qui n'était qu'une garantie de remboursement de son argent. Alors, c'est Colossi et Guélor, hein, de Colossi,
oui.
qui ensuite lui a demandé si quels documents on doit avoir pour vendre un bien personnel. Hein, par exemple, vous, Jody, vous voulez liquider un vieux matelas. Et pour rassurer l'acheteur, qu'est-ce que vous devez produire comme bien?
Comme document.
Comme document.
Oui.
Alors là, la question est très pertinente parce que nous ne conservons pas souvent les factures hein,
oui.
d'achat de nos biens. Mais ça, c'est l'idéal. Le conseil que l'on peut donner, c'est que quand vous avez acquis un bien, un ventilateur, un matelas, etc., il faut bien conserver la facture de sorte que le jour où vous voulez vous en débarrasser, peut-être pour acquérir autre chose, eh bien, à ce moment-là, pour rassurer l'acheteur, vous pouvez lui montrer votre facture. Néanmoins, nous savons très bien qu'on ne conserve pas ce genre de documents.
Oui.
Et généralement, il y a un principe de droit qui dit qu'en fait, des meubles, hein, possession vaut titre. Donc, c'est celui qui détient le bien qui est présumé être vendeur. Et je suppose donc que ces biens-là doivent plutôt se vendre soit à la maison, vous mettez un communiqué, les gens viennent chez vous et les trouvent dans votre maison. Ça établit une présomption qu'ils vous appartiennent.
Oui, maître,
c'est lorsque ces biens sont exposés dans un marché pirate, c'est là que ça devient compliqué.
Voilà, il y a même un auditeur, Marc Mahamba, de Kisangani, qui nous a écrit sur la page Facebook, il dit que c'est toujours mieux d'exiger une décharge. Je crois qu'il veut parler d'une facture. Hein. La personne qui vous vend le bien de seconde main doit établir une facture,
hein.
Surtout si c'est une personne que l'on connaît très bien.
Exactement, pour pouvoir retracer l'origine du bien. Hein. Alors, comment discerner un vendeur qui n'est pas réceller, hein,
oui.
ou qui n'est pas voleur, n'est-ce pas?
Oui.
Ça, là, on est dans un domaine de la psychologie, là, je
dis. C'est pas facile, hein.
Et comment discerner que la personne qui est en train de vous vendre le bien est un citoyen honnête ou c'est quelqu'un qui a acquis ce bien lui-même de manière frauduleuse?
Oui.
Là, je pense que... là, je m'en remets au flair de chacun, mais il y a ce qu'on appelle des indices. Hein. Vous pouvez avoir des petits indices qui vous montrent que cette personne ici n'est pas à l'aise. Hein. Lorsque la personne, par exemple, tend à cacher la marchandise, comme nous le voyons souvent en ville, vous êtes abordé par quelqu'un qui, avant de sortir la marchandise ou le bien,
il regarde à gauche et à droite. Hein.
Donc là, c'est un indice, par exemple.
Oui.
Vous êtes devant une personne qui vous vend un téléphone... BlackBerry, je m'excuse de faire de la publicité, il vous les vend à $10, par exemple. Hein.
Oui.
Vous voyez que le prix n'a aucune commune mesure avec la valeur réelle du bien. Ou bien il commence à $1000 et vous dit que prix à souka, c'est 30. Hein.
Oui, c'est $30.
Je vous dis, il y a des indices comme ça qui vous montrent que cette personne n'a certainement pas investi pour acquérir ce bien.
Oui.
Sinon, elle ne peut pas le revendre à ce prix-là. Etc, etc. C'est donc la somme de tous ces petits indices qui peuvent aider le citoyen à distinguer, à savoir s'il est réellement derrière un vrai propriétaire du bien ou devant quelqu'un qui l'a volé et qui donc cherche à s'en débarrasser sans considération de la valeur réelle de ce bien-là.
Joël Kalonga nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Abbé Okapi. Bonjour à tous les fidèles.
On vous écoute, Joël. Oui,
j'aimerais bien savoir
quelle attitude vais-je adopter dans la vie pour éviter de tomber victime de cette infraction de recel de malfaiteurs?
Voilà, quelle attitude avoir pour éviter de tomber dans le filet des malfaiteurs. Moïse Amissi, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, hein, Moïse?
Moi, je voulais demander à l'invité, si on retrouve un téléphone en main d'un pasteur, or le téléphone a été volé, le pasteur avait obtenu le téléphone le jour de l'offrande à l'église.
Voilà, on retrouve un téléphone volé entre les mains d'un pasteur qu'il avait reçu lors des jours des offrandes à l'église. Maître Guilain, qu'est-ce que vous pouvez le dire?
Oui, je commence par Joël Kalonga de Lubumbashi.
Oui.
L'attitude à avoir pour éviter de tomber un jour dans un cas de recel, c'est de se faire violence et d'aller faire ses achats auprès des commerçants qui sont reconnus comme tels et qui sont établis et qui payent leurs droits et taxes auprès de l'État.
Et qui vous délivrent une facture après l'achat.
Oui, en exigeant effectivement une facture. Généralement, ces commerçants-là vous délivrent une facture à l'issue de l'achat avec la preuve que vous avez payé. Donc, c'est la meilleure attitude pour éviter de tomber un jour dans une infraction de recel. Quant à Moïse, Amissi de Kindou, le pasteur reçoit dans le panier des offrandes un téléphone volé. Vous comprenez tout de suite que la question de la bonne foi se pose ici.
Oui.
Le pauvre pasteur, n'est-ce pas, n'était pas au courant, certainement, de l'origine délictueuse du bien. Il peut même penser que c'est un fidèle qui n'avait pas d'espèces d'argent sur lui et qui a voulu montrer sa foi en déposant un bien. Ce n'est pas interdit.
Oui.
Et donc, pour le pasteur, il n'y a pas d'infraction. Et c'est par contre pour
le fidèle.
Le fidèle, si le téléphone a été obtenu par extorsion ou vol, il peut être un jour poursuivi pour cela. Mais si après on retrace, on retrouve que le téléphone est entre les mains du pasteur, il pourra toujours se justifier qu'il l'a pris dans le panier des offrandes. Il était de bonne foi, il ne connaissait pas l'origine délictueuse du bien.
Et il peut le restituer sans problème, sans être poursuivi.
Oui, c'est ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent dans notre émission aujourd'hui.
Oui.
C'est que finalement, lorsque le bien qui a été obtenu de manière délictueuse est découvert, quelles que soient les mains entre lesquelles il se trouve, il doit être restitué au propriétaire.
Bien.
N'est-ce pas?
Oui.
Et l'acheteur, lui, si c'est un acheteur de bonne foi, eh bien, il va se retourner vers son vendeur pour que l'argent qu'il avait dépensé lui soit restitué, à part le fait que l'État va poursuivre ce monsieur-là pour vol ou extorsion. Le bien doit être remis auprès de son propriétaire parce qu'il lui a été ravi de manière infractionnelle.
On va terminer avec la question de Pascal Kabamba, de Kananga. Pascal, bonjour.
Bonjour, je vous appelle depuis Kananga. Ma question est la suivante. Il y a une personne de mon quartier qui a acheté une télévision. Des jours après, les voleurs sont entrés dans le quartier, ils ont volé. Des jours plus tard, le monsieur passe dans les grands marchés, communément appelé ici Chambadjiba, et Malumantonda, il va là-bas et trouve cette télévision. Il va à la police du marché. On amène les deux personnes et on exige à la personne là la facture. Pour bref.
Oui.
Deuxième question, je suis étudiant à l'Université Notre-Dame du Kassai. Quand les étudiants viennent à la bibliothèque pour lire, ils volent les livres et ils viennent les vendre à d'autres personnes de la ville. Et ces personnes-là coupent les feuilles où se trouvent les sceaux de l'université. Et il n'y a pas moyen de les atteindre, il n'y a plus de preuves là-bas. Maintenant, qu'est-ce que l'invité peut nous dire?
Oui, mais Pascal, vous n'avez pas terminé l'histoire. Le monsieur qui a perdu sa télé, et sa télé a été volée et il a retrouvé cette télé au marché. On lui a demandé de présenter les factures. Est-ce qu'il a, il a finalement enfin présenté ses factures et a-t-il récupéré sa télé?
Non, il n'a pas récupéré sa télé. Quand il est parti à la police, c'est comme ça qu'on a exigé les factures. Lui n'en avait pas. Et maintenant, il a aussi des télés comme ça.
Bien. Maître Guilain.
Voilà des cas vraiment typiques, des cas de recel. Une télévision volée qui se retrouve sur une table exposée au marché.
Oui.
Effectivement, le propriétaire de la télé a très bien fait d'alerter la police nationale. Et effectivement, le commerçant ou le vendeur au marché qui a exposé la télé doit être interpellé et justifié de l'origine de la télévision. Et dans le cas d'espèce, je suis presque sûr qu'il ne saura pas justifier comment est-ce que lui-même a obtenu ce bien pour pouvoir le revendre. Donc, nous sommes dans un cas vraiment typique de recel et le vendeur au marché sera sévèrement sanctionné. Hein, sans oublier, parce qu'il doit même dénoncer la clique des voleurs qui sont ses fournisseurs.
Oui. Mais alors, comme le monsieur n'a pas pu présenter les preuves des paiements, il ne pourra pas récupérer sa télé.
Le propriétaire de la télévision.
Oui.
Non, il va récupérer parce que...
Il n'avait pas de facture.
Je vous ai dit qu'il y a un problème de conservation,
oui,
des factures, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est le seul mode de preuve reconnu dans notre droit. Dans notre loi, il y a plusieurs modes de preuve, notamment les témoignages aussi, c'est un mode de preuve.
Oui.
N'est-ce pas? S'il peut produire 3 ou 4 ou 5 adultes qui peuvent venir témoigner qu'effectivement, cette télévision, il l'a achetée à telle date, on la voit généralement chez lui, ou bien même celui qui lui avait vendu la télévision peut être appelé, le propriétaire du magasin, parfois il se souvient de la série, hein, des articles qu'ils vendent,
oui,
il peut venir témoigner qu'effectivement, ce téléviseur vient de mon stock et il avait été vendu à telle époque. Donc, il n'y a pas que la facture comme mode de preuve. Hein. Il faut que les auditeurs le sachent.
Oui.
Le témoignage aussi est un mode de preuve qui est reconnu au Congo.
Bien.
Sur cette base-là, il peut récupérer la télé. Et pour les livres qui viennent des bibliothèques, malheureusement, c'est monnaie courante. Des étudiants qui revendent des livres volés à la bibliothèque,
oui,
eh bien, ceux qui les rachètent, n'est-ce pas? Mais souvent, ils se rendent compte que c'est quand même des livres plus ou moins usagés, hein, et doivent se demander comment est-ce que le vendeur a pu entrer en possession de ces livres-là. Il faut faire attention à ce genre d'achat. Et souvent, on tombe dans des cas de recel si le bibliothécaire recherche ces ouvrages et les retrouve entre votre main.
Oui. Et il a dit que ces bouquinistes s'arrangent toujours pour arracher les pages où il y a les cachets de l'établissement.
Mais ça, c'est justement un indice. Vous voyez un livre qui vous est vendu avec une page de garde sur laquelle on a griffonné, là, on a essayé d'effacer des choses. Là, tout de suite, vous pouvez soupçonner qu'on a essayé d'effacer un nom pour cacher l'origine du bien. C'est un indice, justement, qui vous fait soupçonner que c'est le vendeur ici n'est pas le légitime propriétaire du bien. Et si vous achetez, vous n'allez plus vous prévaloir de la bonne foi parce qu'il y a eu des indices qui vous ont montré que ce n'est certainement pas le propriétaire qui vous a vendu le bien en question.
Alors, maître, pouvez-vous rappeler la sanction en cas de recel?
Oui, le recel, on a dit que la loi prévoit une peine de prison qui peut aller jusqu'à 5 ans de prison au maximum. C'est donc une infraction qui est sévèrement réprimée par la loi.
Guilhem Allaire est juriste, je vous remercie.
Merci Jody et merci à toute l'équipe technique des Radio Okapi.